Infiltrée, une femme au stup. Art colombien. En 1994, un tonton nous donne une info assez loufoque. Des Colombiens vont expédier en France des œuvres d'art et la cocaïne sera mélangée à la peinture. Une première mondiale, un moment de gloire pour la brigade, si on réussit le coup. Nous finissons par loger un Colombien et un Chilien à Roissy, ainsi que d'autres Colombiens habitant dans le 16e. Ils louaient des chambres de bonne, mais se débrouillaient pour avoir des adresses prestigieuses. Ces Colombiens vont nous épuiser. Ils ne prennent jamais de taxi ni de voiture. Ils marchent. Parfois, ils prennent le métro. Il nous arrive de faire jusqu'à 18 km à pied par jour pour les suivre. Et tous les matins, il faut être en planque à 7h30 à Roissy pour filocher le Chilien de ce réseau, le seul à utiliser une voiture. Cela a été une rude filature. J'ai fini par connaître par cœur toutes les tombes du cimetière de Roissy, tellement je m'y suis planquée tous les jours pendant des mois. Il faut savoir que les trafiquants colombiens envoyés en France ont intérêt à marcher droit, parce que leur famille, restée en Colombie, peut subir des représailles du cartel qui les emploie. De plus, ils ont été formés par les FARC, ces guérilleros colombiens qui vivent dans la forêt comme des maquisards et sont organisés de façon paramilitaire. Depuis les années 80, les FARC se financent grâce au trafic de drogue, s'éloignant du communisme des débuts. Dans les années 90, au moment de cette affaire, ils ont une puissance militaire sans précédent. La montée en puissance du narcotrafic a correspondu à la baisse de la dimension idéologique et de l'utopie révolutionnaire. Il restait bien sûr, au fin fond de la forêt colombienne, quelques idéologues, comme ceux qui ont pris en otage Ingrid Betancourt. Mais cela n'avait plus rien à voir avec les zapatistes des débuts, les groupes castristes et tous les révolutionnaires des années 60 qui voulaient redistribuer les terres des grands propriétaires. Quand les FARC se sont mis au trafic de drogue, alors qu'ils sont censés être contre les drogues, ils ont commencé à employer des petits voyous locaux et des pauvres types dans la mouise. Dans le secret de l'Amazonie colombienne, se sont montés des laboratoires gigantesques, organisés en différentes zones. Une véritable industrie de fabrication de la drogue, de la feuille de coca aux produits finis. À l'entrée de cette zone industrielle, une pancarte en espagnol qui ne tient pas sa langue, perd sa tête. C'est pour toutes ces raisons que nos Colombiens observent une discipline quasi-militaire et connaissent tous les tuyaux pour ne pas se faire prendre. Par exemple, ils n'utilisent pas de véhicules, ou le moins possible, parce qu'on pourrait ainsi les identifier. Même un taxi peut donner des indications. Donc pas de taxi. Ils ne se servent pas non plus du téléphone. Et à l'époque, il n'y a ni téléphone portable, ni téléphone prépayé. Ils se donnent des rendez-vous à jour et à heure fixe chaque semaine. Si un tel ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. Ils nous font courir, mais nous les filochons sans relâche. Nous découvrons que leur point de rendez-vous est à l'église Saint-Germain-des-Prés, au moment de la messe en espagnol, à 17h. C'était bien choisi. À l'occasion de cette messe particulière, qui existe toujours aujourd'hui, nos trafiquants peuvent se fondre dans la foule des fidèles et communiquer, échanger un document, recevoir un ordre, etc. Ils avaient aussi des codes couleurs. Par exemple, si X est toujours habillé en noir et qu'un jour il vient en blanc, c'est qu'il ne faut pas lui adresser la parole et que quelque chose ne va pas. Rien à voir avec nos petits trafiquants de banlieue. C'est donc très dur de travailler sur eux. On ne peut pas les infiltrer, bien sûr, et même pris, ils se tairont. Ils ont bien plus peur de leur cartel que de la police française ou des prisons françaises où ils seront logés et nourris. L'enquête va durer longtemps. nous repérons un immense appartement à louer, juste en face de chez eux, dans un bel immeuble du 16e arrondissement. L'agence de location accepte de nous le prêter. On est en plein hiver, il fait particulièrement froid et l'appartement n'est pas chauffé. Mais c'est toujours mieux que d'être en planque dehors. Nous restons des plombes tapis derrière les fenêtres, à surveiller avec des jumelles leurs allées et venues. Ils font vraiment très attention et sont constamment sur leur garde. Comme une commission rogatoire a été ouverte, nous pouvons faire des écoutes téléphoniques. Elles nous font parfois beaucoup rire. Comme quoi, une planque peut être marrante. Le trafiquant chilien a une vie réglée comme du papier à musique. Tous les matins, ponctuellement, il amène sa gosse à l'école, rentre chez lui, décroche son téléphone et fait un tour de manège avec sa femme. Ce téléphone décroché nous donne la stéréo de ses ébats, dès le pipiri chantant comme on dit en créole. Après sa gymnastique amoureuse du matin, notre Chilien repart tranquillement vers ses affaires. Enfin, au bout de 6 mois, nos trafiquants, ou supposaient-elles, reçoivent un appel de Colombie. Nous apprenons, en même temps qu'eux, que le conteneur contenant les tableaux va arriver à Roissy, mardi à telle heure, un vol très tôt le matin. Après tant d'attentes, c'est l'effervescence, la jubilation. On se dit qu'enfin, on va savoir, on va les avoir, on va gagner. Une partie de l'équipe fonce à Roissy et interpelle les Colombiens avec leurs tableaux. Moi, je file ensuite avec les tableaux saisis, accompagné d'un collègue, à l'Institut médico-légal où des chimistes, des scientifiques, se mettent à analyser la peinture. J'explique la combine. Les chimistes de l'Institut grattent les tableaux, font des essais, rien. Pas une once de cocaïne. J'appelle mon chef de groupe. Il devient fou furieux. « Eh bien, démontez le cadre! Trouvez quelque chose !» Il s'énerve. « Comment ? Toutes ces filatures et ces écoutes pour rien ?» Hélas, il n'y a pas de drogue dans les peintures. Rien. La déception est terrible. On suppose qu'il y a eu substitution des tableaux au Costa Rica. Le Costa Rica, en Amérique centrale, n'est pas un lieu de production de drogue, mais une étape importante, à partir de laquelle se fait le dispatching international. C'est ce qu'on appelle un pays rebond, c'est-à-dire que la drogue arrive au Costa Rica et qu'elle repart ensuite vers les USA ou l'Europe, reconditionnée. On l'entrepose, on la reconditionne. Elle est mise dans des boîtes de conserve, des caisses ou autres contenants, ou encore, on la dissout dans un produit au-dessus de tout soupçon, avant de la faire rebondir vers d'autres pays. C'est donc une zone de trafic très importante, d'importation et d'exportation, tenue en 1994 par le redoutable et tout-puissant cartel de Cali, qui a supplanté son rival de Medellín après la mort de Pablo Escobar. Que s'est-il passé au Costa Rica ? Les trafiquants se sont-ils doublés entre eux ? La mort dans l'âme, nous remettons nos deux Colombiens en liberté. On ne pouvait rien leur reprocher. C'était de vrais tableaux, sans cocaïne. Quand on les libère et qu'ils signent leur fin de garde à vue, je vois sur leur visage leur incompréhension et même leur peur. Eux non plus ne comprennent rien. Sauf qu'il a dû se passer une catastrophe pour eux aussi. Dans leur organisation, quelqu'un a payé cette drogue et apparemment, elle n'est jamais arrivée. On pourrait les accuser de l'avoir détournée ou d'être des balances. Nous nous sentons laminés par cette affaire qui continue à nous obséder. Nous nous creusons la cervelle pour essayer de saisir ce qui nous a échappé. Ces types organisés comme une armée secrète, avec des rendez-vous clandos, n'ont tout de même pas loué des chambres de bonne dans le 16e pendant des mois pour attendre 10 tableaux sans valeur. Donc, ils attendaient bien de la coke. Évidemment, nous fonçons voir le tonton qui nous a donné ce mauvais tuyau. Il n'y est pour rien. Il confirme qu'il y a dû y avoir substitution. La mort dans l'âme, nous sommes obligés d'abandonner l'affaire, alors que nous espérions un scoop mondial. Nous sommes ridiculisés. Le chef ne décolère pas. Maigre consolation, cette histoire nous fait comprendre qu'à Paris, il y a des chimistes capables de récupérer de la cocaïne dans de la peinture, probablement en la rediluant avec des solvants. C'est vraisemblable, puisqu'il a été trouvé de la cocaïne mélangée à des encres d'imprimante. Tout de même, nous n'arrivons pas à nous sortir cette affaire loupée de la tête. Nous tournons en rond. Aurions-nous travaillé pendant des mois sur une piste qui n'était qu'une fiction ? Qui a détourné ces tableaux peints à la cocaïne ? La réponse nous est donnée quelque temps après, en off, bien sûr. Elle me laisse abasourdie. Précisons que nous n'aurons jamais ni preuve, ni certitude, et appelons cette réponse une hypothèse. Si elle s'avère vraie, elle fait mal. Peu de temps après notre déconfiture, au moment d'une fiesta bien arrosée, un officier d'un des groupes enquête, par rivalité, ou peut-être parce qu'on se la pétait à ses yeux, lâche en rigolant à ses amis quelques indices sur un bon tour qui nous aurait joué. Notre chef est dans les parages, le verre à la main. Il tend l'oreille. Il comprend que cet officier aurait prévenu les douaniers, ou un douanier, du Costa Rica. Or, les douanes du Costa Rica, comme de toute l'Amérique latine, sont totalement infiltrées, gangrénées par les cartels. Notre traître, suffisamment proche du groupe pour être au courant, aurait téléphoné aux douanes du Costa Rica pour les mettre au parfum. Si ça s'est passé ainsi, son ou ses interlocuteurs se sont bien gardés de dire qu'ils étaient aux mains du cartel. Et pour ne pas que cette livraison de coke soit perdue et qu'il y ait tout un réseau qui tombe, ils auront tout simplement récupéré les tableaux, puis les auront remplacés par une dizaine de croûtes avant de les réexpédier dans le même conteneur. Homo homini lupus est.